Session d'initiation à la théologie à Rimont, 5 octobre 1989, Le Christ par le Père Marie-Dominique Philippe.
Avant de regarder le mystère de la croix et de la résurrection, c'est-à-dire ce pourquoi le mystère de l'incarnation s'est réalisé. Il s'est réalisé pour que Jésus, selon la grande prière sacerdotale du chapitre 17 dans Saint Jean, souvent relire cette grande prière, puisque Jésus, là, nous montre les intentions profondes de son cœur avant de vivre le mystère de la croix. Père, elle est venue l'heure. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Je crois que donc chapitre 17, versets 1 et 2, c'est capital ça. C'est ce regard de Jésus comme fils bien-aimé du Père, qui nous fait comprendre la signification profonde de la croix. Oui, tout est exprimé en termes de gloire. C'est quand même très important. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire, au point de vue humain, on sait à peu près ce que c'est. Ça ne dure pas, mais au moment où ça existe, on sait. C'est la proclamation de la victoire de quelqu'un. Toute gloire présuppose une victoire, je crois. Une victoire politique, une victoire au point de vue de l'armée, une victoire comme artiste, et ainsi de suite. Toujours. Au plan surnaturel, on peut dire que la gloire, c'est la grande victoire de l'amour. Grande victoire de l'amour. Alors, avant de regarder ce mystère de la croix, essayons de bien préciser quel est le contenu du message du Christ. Jésus le dit avec suffisamment netteté. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Aimer le prochain comme nous-mêmes. Et Jésus précisera, aimer le prochain comme Jésus lui-même l'aime. Donc c'est un message d'amour, l'agapé. Si vous avez le temps, lisez les quatre gros livres du Père Spic sur l'agapé. Parce que c'est très bien, il a résumé là, dans la Nouvelle Alliance, chaque fois qu'on parlait de l'agapé, de la charité. Et c'est beau ce terme d'agapé, puisque il est assez propre au Nouveau Testament. Il n'existe très peu dans l'Ancien Testament. Soit deux fois ou une fois. Il existe très peu dans la littérature contemporaine des évangiles. Donc, c'est le terme propre qui exprime le contenu du message du Christ. L'agapé. La charité, l'amour. Et l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain. Et Jésus note qu'à partir de là, toute la loi et tous les prophètes sont dépassés. Il faut toujours se rappeler ça. Jésus ne vient pas nous apporter premièrement une doctrine morale. Il vient nous apporter en premier lieu un renouveau de l'amour. C'est cela qui caractérise la Nouvelle Alliance. Sans opposer amour et morale, dialectiquement. Parce que l'amour assume la morale. Il y a une nouvelle éthique chrétienne à l'intérieur de l'amour. Et c'est ce message que Jésus est venu nous apporter. Précisons qu'il vient nous révéler cette agapé, cette charité, telle que lui la vit. Jésus nous donne du vécu dans l'ordre de l'amour. Ce qu'il vit à l'égard du Père, comme fils bien-aimé. Le grand message du Christ, c'est de nous révéler qu'il est le fils bien-aimé. Et donc, c'est de nous révéler son lien avec le Père. Ce mystère de la paternité. Je crois que c'est bien ce qu'il y a d'ultime dans la révélation. Si l'évangile de Saint Jean est l'ultime moment de la révélation, ce que je crois que l'évangile de Saint Jean, selon toute la grande tradition, est ce qu'il y a de dernier. Même après l'Apocalypse, je crois que Jean a écrit l'évangile parce qu'il a vécu l'Apocalypse avec une telle ferveur, une telle intensité, qu'il a compris que l'Église, devant vivre toutes ses luttes, avait besoin d'un renouveau dans l'ordre de l'amour. Saint Paul nous montre bien que l'amour est au-dessus de tout, au-dessus de la foi, au-dessus de l'espérance, eh bien, au-dessus de toutes les vertus morales. C'est bien évident. On sera jugé sur l'amour, sur cet amour divin qui est dans notre cœur et que nous exerçons pas suffisamment. Nous pouvons l'exercer beaucoup plus. La prière intérieure, l'oraison, c'est l'exercice de l'amour. L'exercice de l'amour à l'égard du Christ, à l'égard du Père. Je crois qu'il est très important pour nous, surtout aujourd'hui, quand on vit dans un climat tellement laïcisé, de comprendre que le message du Christ, dans ce qu'il a de plus pur, et qui va éclater avec le mystère de la croix, le message du Christ, c'est de nous faire comprendre que nous sommes des enfants bien-aimés du Père, des fils bien-aimés, à sa suite. C'est donc le mystère de la paternité qu'il faut découvrir. Vous connaissez suffisamment ce passage de l'Épître aux Hébreux, où saint Paul nous dit que l'Esprit Saint nous est donné, et que l'Esprit Saint, au plus intime de notre cœur, nous fait dire « Abba ». Il nous fait dire Père. L'Esprit Saint qui nous fait vivre tout le message du Christ se résume dans cet appel, dans cette expérience. Et saint Thomas, en commentant ce passage, n'hésite pas de dire que l'expérience surnaturelle, mystique, la plus profonde, c'est de dire Père, au plus intime de notre cœur, en comprenant et en vivant de cette relation d'intimité avec le Père. Nous sommes des enfants bien-aimés. Et c'est pour ça que l'héritage nous est donné. Et l'héritage, c'est le Christ lui-même. Le Père nous aime tellement qu'il nous donne son Fils. Le secret de toute sa vie. Il nous le donne. Il nous le donne à la croix. C'est très très important pour nous de bien saisir cela. Voyez, le démon, puisque nous vivons au milieu de ces luttes, le démon, depuis 150 ans, a réussi à faire qu'il y ait la naissance de toutes ces idéologies athées. Ces sept grandes idéologies athées, qui sont des antithèses des béatitudes évangéliques. et qui sont, je crois, les antéchrists, au point de vue de la doctrine, qui attaquent directement le message du Christ. Toutes ces idéologies athées, j'étais bien obligé de les étudier comme philosophe, toutes ces idéologies athées mutilent l'homme, puisque aucune ne regarde l'amour. C'est une dialectique qui veut montrer que l'homme est parfaitement autonome. Mais on ne parle plus de la relation la plus intime que l'homme peut avoir avec un autre homme, avec un autre être humain. Cette relation de l'amour et d'amour d'amitié. Et évidemment, on ne parle plus de l'adoration et de l'amour à l'égard de Dieu. L'amour filial que Jésus nous a porté. On peut dire que ces idéologies athées qui sont nées de l'Europe. Saint Jean nous dit dans sa première épître que les antéchrists sont nés de chez nous. Il annonce ça. Dieu avait choisi l'Europe comme le lieu de la naissance de la chrétienté. Et le démon est arrivé à faire que de l'Europe sortent ces sept grandes idéologies athées qui ont comme fruit de nous mettre dans un climat, un milieu d'opposition vis-à-vis de ce que l'Église peut nous enseigner, ce que le Christ peut nous enseigner. La destruction des béatitudes évangéliques. Parce que si ce que Jésus vient nous apporter de plus profond, c'est ce primat de l'amour, primat d'amour à l'égard de Dieu, primat d'amour à l'égard du prochain. Ce qui s'épanouit dans notre vie, dans les béatitudes évangéliques. Les béatitudes évangéliques, c'est la charte de la vie chrétienne. Et les béatitudes évangéliques ne peuvent être vécues que sous le souffle de l'Esprit Saint. On est tous incapables de vivre ces béatitudes évangéliques par nous-mêmes. Ça ne peut se vivre que sous le souffle de l'Esprit Saint qui nous fait dire « Père ». Chacune des béatitudes nous dit « Père » en regardant Dieu. Et nous fait comprendre cette exigence nouvelle, toute nouvelle, qui est l'originalité propre de la doctrine du Christ. La morale a été donnée dans la première alliance, les dix commandements de Dieu. Et le dépassement de la morale, c'est la béatitude évangélique. Et les béatitudes évangéliques nous font comprendre cet absolu de l'amour dans notre vie. Vous voyez, c'est comme une espèce d'incarnation de l'amour. Et cette incarnation de l'amour dans notre cœur et dans notre vie humaine se traduit à travers les béatitudes évangéliques. C'est pour ça qu'on doit tout le temps y revenir, à ces béatitudes évangéliques. Et bienheureux les pauvres. Pas commode à vivre dans un climat de culture de consommation, l'économie de la consommation. C'est juste l'inverse, c'est la richesse. Et la pauvreté spirituelle, c'est pas la pauvreté matérielle en premier lieu, c'est la pauvreté du cœur, c'est-à-dire de comprendre qu'on doit vivre dans la gratuité de l'amour. Parce que Dieu nous a aimés le premier et réclame de nous une réponse d'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Nous ne serons pas jugés sur nos vertus, heureusement. Nous serons jugés sur l'amour. Mais pour aimer parfaitement, il faut autant que possible être vertueux. Surtout pour aimer le prochain, vous voyez ? Parce que Dieu, il aime ceux qui n'ont pas beaucoup de vertus, mais qui il aime les pauvres types. Tandis que c'est très difficile de vivre en vie commune, aussi bien la vie commune du mariage que la vie commune religieuse, s'il n'y a pas de vertu. Et quelqu'un qui décolère jamais, c'est très difficile à vivre avec lui. Pauvre épouse, d'avoir épousé un coléreux. Pas dans les fiançailles, mais après. Les fiançailles, on se tient comme on peut. Tandis qu'après, les digues sont ouvertes. C'est très difficile. La vertu de force nous aide à nous dominer et à laisser passer devant l'amour. La vertu de tempérance nous aide à comprendre que l'amour est premièrement spirituel. Bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les cœurs purs. Il faut souvent lire les béatitudes. Je crois que c'est le meilleur examen de conscience qu'on peut faire. L'examen de conscience, au point de vue chrétien, c'est à la lumière des béatitudes. C'est pas autrement. Même si on nous a éduqués selon les commandements de Dieu, nous devons nous rééduquer dans le renouveau, dans la lumière des béatitudes. C'est bien plus grand. Et les béatitudes vécues en enfant bien-aimé du Père. Puisque chacune des béatitudes nous aide à entrer dans le mystère de la paternité. Jésus a voulu nous donner comme testament l'Eucharistie. C'est bouleversant, ça. Si on avait le temps, on regarderait comment tout l'évangile de Jean est ponctué par les cinq repas. Et les cinq repas nous font comprendre le mystère de l'Eucharistie. Cana, la multiplication des pains, le lavement, Béthanie, le repas de Béthanie d'Action de Grâce, chapitre 12, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Et en dernier lieu, ce petit repas rapide sur les bords de la Galilée. Eh bien, ces cinq repas nous montrent d'une manière symbolique, d'un symbolisme divin, le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, testament du Christ. C'est extraordinaire, il faut comprendre comment la manne était une préfiguration de l'Eucharistie. Quand le peuple d'Israël au désert a vu la manne, ils ont été stupéfaits. Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être toujours l'admiration qu'on a devant le mystère de l'Eucharistie. Dieu, Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui se donne à nous sous les apparences, sous le symbolisme du pain et du vin. C'est plus le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, c'est le Dieu du pain. C'est le Dieu qui se donne sous la forme du pain. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre par là? L'absolu de l'amour. Je vous ai dit hier, plus on aime, plus on veut se donner. Et Jésus ne pouvait pas se donner plus qu'à travers l'Eucharistie. Il ne pouvait pas manifester davantage son amour qu'à travers l'Eucharistie. Se donner sous la forme du pain. C'est le don du corps du Christ. Il est réellement présent d'une manière invisible, d'une manière mystérieuse, mais il est réellement présent pour nous. Il nous est réellement donné. Il a voulu que ce soit sous cette forme du pain. Pourquoi? Parce que le pain, c'est l'aliment, c'est le serviteur par excellence. pour réfléchir un instant sur cette question de l'aliment, vous voyez. L'aliment, c'est pour le vivant. L'aliment, c'est le serviteur par excellence. On en use substantiellement. Vous usez d'un outil, vous usez de vos vêtements, mais l'aliment, vous en usez de façon substantielle. À tel point qu'après l'assimilation, c'est vous. L'aliment disparaît. Jésus sait bien ce que c'est. Hein. La philosophie de l'aliment, il connaît très bien. Vous voyez, l'ami, on en use. Il est un serviteur merveilleux. Mais on le respecte dans son altérité. L'aliment, vous ne le respectez pas dans son altérité, puisque vous le transformez en vous. Service substantiel. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, demain, tu peux faire grasse matinée, je prendrai mon petit déjeuner pour toi. Vous ne pouvez pas dire ça. Impossible. Tandis que vous pouvez lui dire, je ferai le travail que tu devais faire. Ça oui. Vous pouvez être son serviteur. Vous pouvez travailler pour lui. L'aliment, c'est quelque chose de tout à fait individuel, on le sait bien. Quand un malade ne mange plus, quand il est obligé de le nourrir de façon artificielle, c'est ce que ça représente. La fragilité du vivant à ce moment-là. Alors qu'un bon vivant, hein, il aime un bon repas. Amicalement, quand vous voulez montrer à un ami, vous l'aimez bien. Après une grande lutte, une grande difficulté, après des examens, mais on fait ça mais spontanément, ça fait partie de notre vie, ça. Le bon vivant, quoi. Il aime la bonne table. Le pain et le vin. Le pain, c'est ce qu'il y a de nécessaire. Mais quand un mendiant vous demande du pain, vous savez que c'est un vrai mendiant. Et quand un mendiant refuse le pain, il dit « la bouteille ». Vous vous posez une question, est-ce que je dois lui donner une bouteille? Et que le pain, vous le donnez toujours. Et quand il mendie, et qu'il sent l'alcool, à 10h du matin, et qu'il vient frapper à la porte, il lui dit, je vais vous chercher un bon morceau de pain, il le refuse. Alors vous vous posez la question, parce que vous dites, pour la seule joie qu'il a, c'est le petit verre. Est-ce qu'on doit lui refuser cette joie? Et en même temps, c'est pas bon, parce que on coopère à son vice. Je me posais toujours cette question à Fribourg, où il y avait une bonne clientèle. Je venais frapper à la porte, 10h du matin, comme ça. Alors évidemment, quand il tombait sur le portier reconnaissait, chut, allez-vous-en. Quand, par hasard, j'ouvrais la porte, alors là, c'était plus difficile de dire, allez-vous-en. Vous ne savez pas très bien ce qu'il fallait faire. Il aurait fallu avoir un vin dont la couleur, dont le goût soit exactement ça, mais ne soit pas du vin. Il aurait reconnu. Hein. Parce que ils savent me reconnaître tout de suite. Hein. Vous me trompez, mon père. C'est pas ça que je vous demande. Jésus a voulu prendre le pain et le vin. En Suisse, il y a les ligues anti-alcooliques. Alors, ils ne comprennent pas très bien. Ils ne comprennent pas très bien l'écriture qui parle du vin. Le pain, c'est la nécessité et le vin, c'est la joie. C'est la surabondance. C'est extrêmement beau de voir que Dieu, dans sa sagesse, a voulu se donner sous ces deux formes. L'amour, il n'y a rien de plus nécessaire. On crève quand on n'aime pas. Et le monde d'aujourd'hui est un monde d'efficacité. Dans tous les domaines, on trouve ça. Le primat de l'efficacité. Il y a un monde qui tue l'amour. On assassine l'amour aujourd'hui. C'est effrayant, ça. C'est pire de tout. Hein. Des avortements dans l'ordre de l'amour. Pour toute n'importe quelle raison. C'est un monde d'efficacité. devient la chose première, primordiale. On sait bien, on est tous obligés hein, d'entrer un peu dans ça. On doit être lucide, c'est déjà beaucoup, pour essayer de réparer les dégâts, autant qu'on le peut. L'amour, rien de plus nécessaire. Une vie humaine sans amour, c'est la chose la plus terrible qui soit. Parce que c'est l'enfer, le lieu où on n'aime pas, le lieu où il n'y a plus d'amour. Le démon n'a qu'un seul désir, c'est d'implanter l'enfer sur la terre. La tour de Babel, le symbolisme de la tour de Babel. Uniquement l'efficacité. Réfléchissez, c'est facile à comprendre, on le voit bien. C'est comme ça qu'on lutte contre la fécondité, qu'on lutte, que le démon lutte contre la fécondité, que le démon lutte contre l'amour. Tarir le cœur de l'homme, et surtout le cœur de la femme, parce qu'elle est gardienne de l'amour. C'est son rôle propre. Il n'y a rien de plus nécessaire que l'amour, et il n'y a rien de plus gratuit que l'amour. La gratuité de l'amour, le vin. Jésus veut se donner à nous sous ces deux formes. Et on pourrait presque dire le pain, l'amour à l'égard de Dieu, le vin, l'amour à l'égard du prochain. Il y a un peu de cela. Parce que la charité fraternelle, c'est toujours dans la gratuité qu'on doit la réaliser, tout le temps. Il faut aimer intensément le Christ pour devenir source d'amour pour le prochain. Jésus a voulu, comme testament, réaliser le mystère de l'Eucharistie. Avec l'Eucharistie, le mystère du sacerdoce ministériel. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est pour ça que notre pape a rappelé que l'Eucharistie était ce qui définissait, ce qui spécifiait le sacerdoce ministériel. Le prêtre est fait pour l'Eucharistie. Et le fidèle doit vivre du sacrement de l'Eucharistie. Dans notre vie ne peut être chrétienne que si nous vivons du mystère de l'Eucharistie. Nous ne pouvons peut-être pas tous les jours recevoir l'Eucharistie de façon sacramentelle. Alors à ce moment-là, qu'on ait le désir tous les jours. Saint Thomas n'hésite pas de dire que si on ne peut pas, pour telle ou telle raison de travail, recevoir l'Eucharistie tous les jours, ou raison de santé, la communion spirituelle, le désir de l'Eucharistie, donne tous les effets. C'est très beau, ça. Puisque les sacrements sont pour nous, et les sacrements nous éduquent dans l'ordre de l'amour. Et donc, on doit comprendre que le sacrement de l'Eucharistie nous est donné de cette manière tout à fait particulière pour que nous puissions vivre du cœur de Jésus, de son amour. Aimer Jésus comme on aime le Père. Et en aimant Jésus, on aime le Père. En se donnant totalement à Jésus, on se donne totalement au Père. Et en se donnant à Jésus et au Père, on devient source d'amour pour ses frères. Il y a là quelque chose de très grand, de très divin, de merveilleux. Il faut aimer beaucoup l'alliance nouvelle dans l'Eucharistie. L'Eucharistie annonce la croix. Il est donné testament. Et le testament appelle la mort pour que le testament prenne toute sa valeur. l'Épître aux Hébreux. Il y a un lien entre l'Eucharistie et la mort du Christ. Pourquoi ? Parce que l'Eucharistie nous fait vivre l'offrande de la croix, le sacrifice de la croix. Consécration du pain, consécration du vin. Le corps et le sang sont séparés. Et donc, c'est ce qui se passe à la croix. Jésus meurt dans un état de violence, la mort violente de la croix. Séparation du sang et du corps du Christ qui ira jusqu'au coup de lance. Alors, regardons un peu ce grand mystère de la croix lié à la gloire. Ne séparons jamais les deux. Oui, il faut toujours unir le mystère de l'Eucharistie au mystère de la croix. Le mystère de la croix au mystère de la résurrection. Les trois se tiennent. Et l'Eucharistie nous donne le corps glorieux du Christ, le cœur glorieux de Jésus, le sang glorieux du Christ. Il nous donne son âme. L'âme du Christ est le mystère même du Verbe de Dieu. L'Eucharistie est liée à la croix, est liée à la gloire. Alors, réfléchissons sur ce grand mystère de la sagesse de la croix. C'est dit avec beaucoup de force, c'est saint Paul qui nous le dit. La croix du Christ est scandale et folie pour l'homme. Pour le païen et sagesse pour le croyant. Il faut souvent se rappeler ça, parce que ça nous fait comprendre d'une façon très concrète le grand mystère que Jésus vient nous apporter du primat de l'amour. Ce primat de l'amour se traduit à travers la croix. Et la croix du Christ, c'est vrai, c'est un scandale. Pour notre intelligence humaine. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment Dieu, dans sa sagesse, a choisi le mystère de la croix pour nous faire comprendre son amour. Et comme la croix s'achève dans le cœur de Marie, dans le cœur de Saint Jean, et dans le cœur de tous les fidèles. La croix, elle est présente dans notre vie. À certains moments, d'une façon beaucoup plus forte. À d'autres moments, d'une façon plus douce. Mais elle est toujours présente dans notre vie. Le chrétien est lié à la croix. Par sa grâce, par la grâce chrétienne. Il est né à la croix. La grâce nous a été donnée à travers la blessure du cœur du Christ. On est donc lié, on est contemporain de la croix, par la grâce chrétienne. Folie pour notre sensibilité. C'est vrai, notre sensibilité ne peut pas supporter la souffrance. On doit se poser la question pour entrer dans cette sagesse. Pourquoi Dieu, pourquoi le Père, qui aime tellement son Fils et qui, à travers son Fils, nous aime du même amour, Père a-t-il, dans sa sagesse, voulu la croix du Christ, la croix de son Fils bien-aimé? Il faut tout le temps revenir à cette interrogation. Surtout quand le mystère de la croix se dresse dans notre vie et que nous sommes un peu crucifiés avec Jésus. Dieu aurait pu, je vous l'ai dit hier, pardonner, effacer la faute sans le mystère d'incarnation, sans le mystère de la rédemption. Il n'a pas voulu. Pour que nous comprenions mieux la gravité de celui qui refuse l'amour, la gravité de l'orgueil. Comment l'orgueil mutile l'homme, puisqu'il l'empêche d'aimer. Et comment l'orgueil blesse Dieu dans sa vulnérabilité de père. À travers le mystère de la croix, Jésus nous enseigne. Saint-Augustin dit que la croix, c'est la chair ultime de l'enseignement chrétien. Et c'est là où il donne son ultime enseignement, les sept paroles du Christ crucifié, qui résument toute la doctrine du Christ, tout son enseignement. Ces sept grandes paroles. Le petit livre du Père Journet, qui est très beau. De méditer sur ces sept grandes paroles de Jésus qui nous donne son testament, non plus le testament eucharistique, mais ce pourquoi l'Eucharistie a été instituée, pour que nous vivions de cet holocauste d'amour qui se traduit à travers ces sept dernières paroles de Jésus.
fin d'une retraite. On le ferait tous. Il n'y en aurait plus peur du tout de la mort. On l'aurait fait. Vous savez, comme quand on fait des sauts périlleux, au bout d'un certain temps, on le fait. On ne peut pas. La mort, ça ne surprend pas. La mort est le seul absolu devant lequel l'intelligence humaine est obligée de dire qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne peut rien. Mais c'est la faillite de la philosophie, la mort. C'est quelque chose qui nous fait tous frémir. Dans ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est pour ça que c'est la source de toutes les angoisses. Dieu peut, dans sa toute puissance, parce qu'il est le Créateur, il peut se servir de la mort et donner à la mort un nouveau sens. Se servir de la mort pour montrer la victoire de l'amour. Pour montrer que l'amour est au-dessus de la mort. Qu'il y a dans l'amour un absolu. Bien plus grand, un absolu de vie qui va beaucoup plus loin. Et c'est la signification du mystère de la croix. Ça ne pouvait pas être plus éloquent pour nous manifester l'absolu de l'amour en acceptant l'absolu de la mort. Et en effet, vous voyez que dans la mort de la croix, Jésus, dans l'obéissance au Père, a accepté toutes les morts sont présentes à la croix. La mort intérieure de l'amour, la trahison. Il n'y a rien qui fait plus de mal à l'ami que d'être trahi par un de ses amis. Ça tue notre cœur. Ça le blesse mortellement. Ça tue l'amour. Jésus a été trahi par un des siens. Il y a eu le reniement de Pierre. Il y a eu la lâcheté des neufs. Au moment où Jésus a été arrêté. Sur les 12, il n'y en a qu'un seul qui est fidèle. Un seul, sur 12, hein. C'est pas fameux. Quand même, le début de l'Église, c'est comme ça. Sauf que c'était un évêque anglais, on lui demandait comment ça allait. Alors il disait, pas trop mal si je compare au début de l'Église. Et c'est vrai, c'est vrai. Pas trop mal si on compare au début de l'Église. Jean n'a pas désespéré, Marie n'a pas désespéré. Mais la qualité, Dieu ne regarde pas la quantité en premier lieu. Parce qu'il ne regarde pas l'efficacité en premier lieu. Ceux qui regardent l'efficacité en premier lieu regardent toujours la quantité en premier lieu. Parce que pour l'efficacité, il faut beaucoup de quantité. Tandis que si on regarde l'amour, un seul peut tout réparer. Et c'est vrai. Marie, dans sa fidélité, son amour, a porté tous les hommes comme mère. Elle nous a engendrés à la vie divine, à la croix. La mort intérieure, la mort religieuse de cette communauté religieuse, il meurt comme un blasphémateur. Il vaut mieux qu'un seul meure pour sauver le peuple. Mort au niveau de la charité fraternelle. On le considère comme quelqu'un de dangereux. Il fait du mal. Ça, c'est le Sanhédrin et c'est les grands prêtres. La mort religieuse pour une âme aussi profondément religieuse que Jésus. blasphémateur, celui qui diminue Dieu aux yeux des hommes, alors qu'au contraire, il vient nous révéler que Dieu est amour. La mort sociale, il est réduit à l'état d'esclave. Et il mourra comme un esclave. Seuls les esclaves peuvent mourir sur la croix. Il ne faut pas l'oublier. C'est la mort des esclaves, c'est-à-dire la mort de ceux qu'on considère comme n'ayant aucune dignité humaine, la mort de ceux qu'on rejette. Il est abîmé dans son corps, un objet devant lequel on se voile la face. Le corps du Christ, qui est le plus beau de tous les enfants des hommes, est labouré, ravagé par la flagellation et la croix. Il y a une destruction du chef-d'œuvre de Dieu. La destruction des cathédrales au moment de la Révolution, la destruction de Cluny, pas bien loin d'ici. Au moment de la Révolution, n'est rien à côté de la destruction du vrai temple de Dieu, qui était le corps du Christ. Il faut qu'on comprenne ça. Et ce sont les hommes qui l'ont fait. Flagellation au couronnement d'épines. On a eu un mépris souverain pour la splendeur et la beauté du corps du Christ. Les morts sont présentes à la croix, la mort biologique violente, toutes, dans la douleur, dans la souffrance. Tout cela pour que le signe, le symbole, soit plus éclatant et qu'on comprenne mieux comment toutes les morts sont vaincues par l'amour. Et non seulement vaincues par l'amour, mais que l'amour s'en sert pour manifester son absolu. C'est le grand sens de la mort du Christ, là. Il meurt pour nous faire comprendre que Dieu est amour. Et que le nom de Dieu, c'est l'amour. Et après la mort biologique, il y a encore la blessure du cadavre et la blessure du cœur du cadavre. C'était inutile. Jésus était déjà mort. C'est la gratuité la plus absolue. Vous voyez, le mystère du Sacré-Cœur, prêtre parémonial, c'est l'évangile de Saint Jean qui nous fait découvrir. Après la mort du Christ, on ne respecte pas son cadavre. On le mutile. Et la seule blessure mortelle, c'est cette blessure au cœur. Pour que les dernières gouttes d'eau et de sang soient versées. Toutes les morts sont présentes. Pour que Jésus puisse s'en servir divinement. Pour montrer aux yeux de tous que la mort est l'amour est victorieux de toutes ces morts. La croix extérieurement, du côté du démon, du côté du regard extérieur des hommes, la croix, c'est le plus terrible des échecs. Et du côté du cœur du Christ, c'est la grande victoire de l'amour. Il faut toujours voir ces deux aspects. Et dans notre vie, il faut tout le temps comprendre ces deux aspects. C'est normal qu'on soit scandalisé par la croix. C'est normal qu'on trouve que la croix, c'est de la folie. Saint François nous l'a bien montré. C'est la voix.